Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la nuit de la vieille Europe dirigé par Patrick PL, assisté de Pascal Esric et Philippe Christel, diffusé en direct mardi 10 novembre 2015 de 21h30 à 23h. Il est diffusé en différé jeudi 12 de 21h30 à 23h également, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Benoît. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr.
Bonsoir à tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue dans ce nouveau numéro des Chroniques de la Vieille Europe. Pour moi, accompagné ce soir, Philippe Christel et Pascal Esséric. Bonsoir messieurs.
Bonsoir Patrick.
Bonsoir.
Ce soir, nous allons nous éloigner un peu des sujets de géopolitique pour nous intéresser à un philosophe, un historien, c'est Michel Foucault. Considéré comme le père de la théorie du genre, il est indéniable qu'il a influencé un grand nombre d'universitaires et d'intellectuels, inclassable sur le plan politique, proche de Sartre et de l'extrême gauche après 68. Il est aussi accusé d'être un penseur libéral et d'avoir dit tout et son contraire. Alors Gallimard vient de sortir à la Pléiade son œuvre complète en 3 volumes, et François Bousquet, rédacteur en chef adjoint de la revue Élément, vient de sortir aux éditions Guillaume de Roux « Putain de Saint-Foucault, archéologie d'un fétiche », un pamphlet ravageur mais très argumenté. Donc pour en parler, nous avons dans notre studio, en chair et en os, François Bousquet. Bonsoir François.
Bonsoir Patrick.
Et Fabrice Moracchini, journaliste à la revue Élément.
Bonsoir.
Dans notre deuxième partie, nous retrouverons bien sûr Philippe Christel qui nous commentera l'actualité européenne. J'espère que Philippe, vous avez plein de choses à nous dire.
J'ai plein de choses à vous dire, ouais, parce mais que ça ne va pas mettre tout le monde de bonne humeur, j'aime autant vous dire.
Bon, bah d'accord. Enfin bon, ça fait quand même 2 mois, donc vous n'avez pas accumulé, vous avez simplement...
Ah non, je n'accumule jamais.
D'accord, très bien. Alors, avant de rentrer dans le cœur de votre livre, François Bousquet, j'aimerais que l'on parle de l'homme Foucault, si sa pensée a été novatrice, considérée comme le philosophe des minorités. Son parcours a été très académique, très classique, venant d'une famille bourgeoise, un père médecin, classe préparatoire, normale sup, agrégé de philosophie, universitaire, élu au Collège de France, remplaçant son ancien professeur Jean-Hippolyte. Il est dans la norme des intellectuels français, en gros.
Par le parcours académique, indiscutablement, il y a une formule très juste, me semble-t-il, de Pierre Legendre, grand historien du droit et de la manière dont le droit est la figure du père, entre autres, parce que Legendre est psychanalyste, institue les sociétés. Legendre a dit de Foucault que c'était un hérétique d'État. Je crois que notre monde repose sur la politique de l'oxymore. Et hérétique d'État, ça veut dire que Foucault a fait rentrer l'hérésie dans l'État. Et en réalité, ça, c'est le programme des avant-gardes depuis un siècle. Hein. L'académisme de l'anti-académisme, le conformisme de l'anticonformisme et vice-versa. La chose commence, mais 100 ans à se produire. Et Foucault n'en est jamais qu'une étape, en réalité. Donc, ou comment l'hérésie va devenir la nouvelle orthodoxie. Ça commence, en un sens, avec les peintres et les poètes maudits. Mais eux avaient des raisons d'être maudits. J'aime énormément un livre qui va paraître... J'ai eu la chance de le lire sur épreuve, qui va paraître en 2016 et qui s'appelle « La théologie de la provocation ». Son auteur est Gérard Cogniaux, un des grands, sinon le plus grand aujourd'hui avec Niva, Slavise en français. Il devrait paraître aux éditions des Sirtes en début 2016. Et « La théologie de la provocation », en réalité, j'aurais pu reprendre ce titre, mais il y a un copyright, s'il appartient à Cogniaux, pour retracer le parcours et l'œuvre de Michel Foucault. Mais c'est le fil conducteur du livre, « La théologie de la provocation ». Mais c'est beaucoup plus que le fil conducteur du livre, c'est le fil conducteur du siècle, en fait, la théologie de la provocation. Cogniaux dit la chose suivante. Hein. Quel est le grand paradigme central du XXe siècle? Il dit que c'est l'âge en double, hein, à nouveau l'oxymore. Hein. Et il part de la figure d'Azef. Azef est un type assez fascinant qui va inspirer Conrad et le grand livre de Bielli, Pétersbourg. Hein. Azef était un juif russe qui travaillait pour la police politique tsariste, d'une part, et d'autre part, qui était le chef de la section terroriste des socialistes révolutionnaires. Hein. Il travaillait et l'un pour l'autre, il a fait assassiner le Premier ministre, hein. Mais mais il a également fait assassiner les siens. Et Cogno dit, et tenez-vous bien, une fois qu'il a été démasqué, il est parti en Allemagne, et en Allemagne, il est devenu spéculateur. Hein. Et là, Cogno dit, me semble-t-il, avec beaucoup de raison, qu'on a la structure de ce que va être le XXe siècle, hein, ou la collusion de quelqu'un, c'est Foucault, en l'occurrence, hein, qui a un pied au Collège de France, donc la police politique dans le cas d'Azef, hein, et un pied dans la section terroriste des socialistes révolutionnaires, Foucault, qui a un pied en enfer, en réalité, parce qu'il est fasciné par les enfers, il est fasciné par le rebut de la société, il est fasciné par ce qu'il appelait la vie des hommes infâmes. Il a du reste fait un texte programmatique assez remarquable, hein, littéralement parlant, qui s'appelle donc La vie des hommes infâmes, et il a publié plusieurs recueils de textes de vie d'hommes infâmes, dont il allait être le Plutarque. C'était plus des vies parallèles, hein, en l'occurrence, comme Plutarque, c'était des vies souterraines. Hein. Et le grand paradoxe de Foucault, moi, qui m'intrigue depuis dix ans que je le fréquente, hein, c'est que Foucault était fasciné par le mal, mais après tout, pourquoi pas? Sade était également fasciné pour le mal, mais Sade était à Charenton, aujourd'hui Sade est au Panthéon. Ça nous donne en deux siècles une évolution du goût. Ce qui est fascinant dans Foucault, c'est la fascination qu'il exerce sur nous. Les sexualités hérétiques, ce qu'il appelait les sexualités hérétiques, c'est-à-dire en fait les sexualités qui s'enseignent dans les boudoirs sadiens, sont devenues aujourd'hui la norme. Hein. Ou comment fabriquer à partir de la déviance un nouveau appareil normatif des sociétés.
Alors on va pas faire les psys de service, mais derrière ce parcours académique, toute sa jeunesse, il a eu cette souffrance parce que Michel Foucault est homosexuel, il a fait plusieurs tentatives de suicide. Est-ce que on dit de Michel Foucault qu'il a par rapport à sa vie personnelle, il a mis ses idées dans sa philosophie.
Alors évidemment, les puristes vont hurler puisque on remet en cause le statut d'autonomie de l'œuvre, hein, mais on peut pas comprendre Foucault sans la biographie est clé à la bibliographie. En réalité, c'est une autofiction, l'œuvre de Foucault. C'est une autofiction qui est fascinante, hein, mais il met en scène ces généalogies qui sont des généalogies, une immersion dans les archives du mal. Hein, c'est une immersion dans sa propre vie, en fait. Hein. Il traîne ce désir de mort. Il y a plusieurs tentatives de suicide. Hein, c'est un solitaire. Il y a la haine du père qui est déterminante, hein, une haine pathologique du père.
Il va changer même de prénom.
Il va récuser le prénom de baptême, Paul. J'allais dire Paul-Marie, Paul-Michel Foucault, il va retirer le nom du père, hein, et ouvrir, mais il n'est pas le seul, hein, c'est cet âge des renégats qui est le nôtre, parce que c'est un grand renégat, Foucault. Mais oui, il est tourmenté, oui, la question d'homosexualité l'a hanté de 18 ans jusqu'à 22, 23 ans, d'où les tentatives de suicide. Hein, mais une fois qu'il l'aura assumé, il va, là encore, on retombe sur les résis d'État, donc faire entrer les résis dans l'appareil d'État, il va faire en sorte d'institutionnaliser ce que le gendre appelait l'homosexualisme, hein, à travers ses livres, entre autres. Hein, et ses vies d'hommes infâmes. Hein.
Pascal Essérick.
À l'époque, certains intellectuels avaient identifié cela. Dans Putain de Saint-Foucault, vous indiquez que Chomsky, qui le rencontre en 71, a été... par sa moralité, il a dit j'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi amoral,
mais il l'était amoral. C'est un cynique, mais là encore, c'est pas le premier ni le dernier. Et à l'époque, en 71, quand il fait le débat avec Chomsky, il est sous LSD. Ça aussi, c'est une des fascinations.
Débat qu'on peut voir sur
YouTube sans problème, sans difficulté. Une des raisons de la fascination qu'il exerce sur nous, c'est que j'en parle dans le livre, c'est que c'est un dandy warholien. Donc le LSD, donc les barres cuir à San Francisco, donc les cols roulés, dont les grandes dents éclatantes. Hein, il fascinait ses auditoires en France, aux États-Unis. Il était prodigieusement fascinant. Et il était prêt à tout. Et en 71, il s'est découvert une passion subite pour le maoïsme et la dictature du prolétariat. Et Chomsky n'en revenait pas qu'un intellectuel de cet acabit puisse professer publiquement de parisannerie, sachant que 5 à 6 ans plus tôt, il aurait dû être, hein, à la commission des programmes de l'éducation nationale. Il n'en a pas été à cause de la question sexuelle, hein, pour dire les choses clairement. Donc il en a souffert. Il a été chassé de Pologne, puisqu'il a été aussi en Pologne, hein, parce que les enquêtes de police politique ont montré qu'il était homosexuel. Hein. Mais pour autant, il a été un technocrate. Enfin, un universitaire gaulo-pompidolien. Et 5 ans après, il lance des pavés. Il a dirigé le département de philosophie de Vincennes, qui était Nef des Fous. Le pouvoir gaulliste a pensé, à raison, qu'il fallait isoler les plus délirants du mois de mai.
Alors on va peut-être, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, rappeler ce que c'était Vincennes.
Vincennes, c'était un immense camp de vacances maoïste, où donc Foucault dirigeait le département de philosophie, mais c'était à la fois un phalanstère. Ça ressemble à ce que sont aujourd'hui les débats entre les écologistes. C'est une foire d'empoigne, en réalité, que Foucault s'est forcé d'arbitrer. Ça, en 71, l'année où il se fait lire au Collège de France. Donc il y a sans arrêt chez Foucault des basculements professionnels qui peuvent sembler inexplicables. En réalité, ils obéissent à des stratégies éditoriales et ils ne font que masquer le noyau nucléaire, le cœur nucléaire du foucaldisme.
Il y a une belle description dans le roman que nous sommes en train de lire, Patrick et moi.
Là, j'ai pas le nom là. C'est juste, si vous avez, dites-le à l'antenne.
Oui, c'est le roman de Laurent Binet où il décrit effectivement Vincennes comme un chaos absolument incroyable. La mort de Roland Barthes.
Fabrice Moracchini sur effectivement ce Foucault un peu inclassable sur le plan des idées.
Oui, non, mais justement, c'est très intéressant parce que cette période-là est charnière. Alors effectivement, à Vincennes, il s'est passé des choses absolument incroyables. Paul Ricoeur, par exemple, a été a failli être plus ou moins lâché par les étudiants parce qu'il était considéré comme un philosophe réactionnaire. Alors je sais bien qu'aujourd'hui, Paul Ricoeur, on le connaît via Emmanuel Macron, qui a été vaguement un de ses assistants, un de ses disciples. Mais enfin, pour quiconque l'a lu un petit peu, on peut dire que c'était vraiment pas... on était quand même à 10 milieux de la réaction. Mais chez Foucault, ce qui est très intéressant, c'est que malgré tout, son parcours individuel... Alors certes, l'homosexualité a joué le rôle qu'on a décrit. Enfin, il ne faut pas non plus, justement, comme on disait à cette époque-là, surdéterminer les choses par rapport à cela. Il y avait quand même de très nombreux homosexuels dans le milieu et académique et littéraire. Alors même déjà, on racontait qu'André Gide avait renié le communisme, en fait, parce qu'il avait découvert, une fois arrivé en URSS, que les homosexuels partaient au goulag. Bon, certes, chez Foucault, il y a une dimension aussi qui est très importante, à mon avis, et qu'on retrouve chez tous les philosophes de cette génération, notamment ceux qui vont former ce que les Américains appelleront plus tard la French Theory, puisque... François en parlera sûrement, ils vont avoir une grande influence dans les années 70 et 80 en Californie, où la plupart d'entre eux, comme Foucault, vont enseigner. Et le grand problème de cette génération-là, c'est que, au fond, le gauchisme, chez eux, est un moyen, en quelque sorte, de libérer, enfin d'émanciper l'université, notamment dans les matières littéraires, qui sont les leurs, en philosophie, en lettres, en sciences humaines, de les libérer de l'influence, alors bien sûr du marxisme, on va dire orthodoxe, c'est-à-dire à l'époque soviétique. Althusser, qui est un communiste de stricte obédience, on va dire, va jouer un rôle très important également, comme Foucault, là-dedans, c'est-à-dire qu'il va accompagner le virage vers le maoïsme puis vers le gauchisme. Mais le grand problème de cette génération-là, c'est en fait d'utiliser effectivement le mal, le crime, la déviance, la différence dans le mal, ça sera le grand thème de ces années-là, pour remettre en cause toute une tradition universitaire très puissante qui est la tradition de la métaphysique hegelienne. Alors, je ne vais pas me lancer là-dedans parce que c'est assez compliqué, mais en gros, le problème qu'ils ont à régler avec la métaphysique et avec Hegel, c'est l'idée qu'il y a, en quelque sorte, une contradiction entre le bien et le mal, que l'histoire a la faculté par la raison de surmonter. C'est-à-dire qu'on peut concilier par l'histoire, par le recours à l'histoire et par les continuités qui sont à l'œuvre dans l'histoire, des choses qui normalement, ou des tendances qui normalement s'excluent. Et il y a l'idée, la grande idée de Hegel, c'est que justement le négatif peut jouer un rôle qui ensuite sera en quelque sorte récupéré par la raison. Et ça, naturellement, c'est Kojève, hein, qui est un philosophe très influent dans l'entre-deux-guerres, qui va introduire la pensée de Hegel en France. La plupart des maîtres de Foucault et de cette génération-là vont suivre ses cours. Et le problème qu'ils ont donc à régler, c'est d'isoler le négatif de l'usage qu'en fait Hegel et la tradition hegelienne. Donc il faut récupérer le mal, il faut récupérer la déviance sexuelle pour en faire en quelque sorte du négatif à l'état pur, un négatif qui va pouvoir briser toutes les formes de continuité. Et c'est pour ça qu'on retrouvera ça plus tard dans la théorie du genre, dans tous les phénomènes post-gauchistes qui vont essaimer à partir des années 70-80. Et Foucault, naturellement, va jouer un rôle de stratège, en quelque sorte, parce qu'il va aborder, au fond, à peu près toutes les disciplines pour étendre cette stratégie de redéfinition du mal.
Oui, parce qu'il y a quand même une étrangeté chez Foucault, c'est qu'il a une œuvre... Ses admirateurs, même les plus fervents, le reconnaissent. Il dit tout et son contraire. Lui-même considère que chaque livre est une sorte de recommencement. Et il a même une technique. Il explique qu'il prend comme départ d'un nouveau livre l'idée du précédent pour pouvoir s'en défaire. Pourtant, il y a quand même une cohérence dans sa vision.
Il y a une cohérence d'ensemble. Avant, je vais un petit peu amender l'histoire de l'université française. Il y a un très bon bouquin de Vincent Descombes. C'est une histoire de mode et de génération, en fait. Hein. Et en effet, il y a une période hegelienne. Mais c'est pas Hegel que les Français vont lire, c'est Hegel relu par Kojève. Hein. Et Kojève est fasciné dans Hegel par la violence dans l'histoire, par ce qu'il appelle la vertu des massacres. Hein. C'est un Hegel très largement amendé. Mais Hegel suit une longue période de néo-kantisme qui va durer un demi-siècle. Hein. Et après Hegel, il y a en effet le structuralisme qui va prendre le Mais je pense que malgré tout, il y a une continuité de l'un à l'autre. Foucault et la French Theory n'est pas on ne peut pas la concevoir sans passer par l'étape Kojève. Hein. Kojève a vraiment été un intercesseur dans l'entre-deux-guerres. Il avait une aura et une autorité d'exception. Et il a fasciné Lacan, il a fasciné Bataille, il a fasciné Blanchot, il a fasciné Merleau-Ponty. Enfin, il a fasciné toute une génération qui va dominer la scène intellectuelle après-guerre. Hein. Et en effet, il va réinterpréter le négatif hegelien. Mais on ne peut pas comprendre la vie des hommes en femmes sans passer par le négatif tel que le conçoit Kojève. On s'éloigne un peu du sujet, mais je pense qu'il y a des continuités. Foucault se voulait le penseur, comme Patrick l'évoquait, des discontinuités. Or, dans la vie des idées, il n'y a pas de discontinuité. Dans la vie scientifique, il y en a. Thomas Kuhn l'a démontré de manière assez convaincante. Hein. Il y a des paradigmes scientifique, c'est qu'on passe d'une société de Ptolémée à Newton, de Newton à Einstein. Là, pour le coup, il y a vraiment des ruptures. Dans la vie des idées, me semble-t-il, et Foucault s'est rendu à cette idée à la fin de sa vie, les ruptures se font de manière dilatée. Et c'est raison pour laquelle Foucault, en tout cas au départ, disait que il s'intéresse à tout. Vous l'avez dit, il est épistémologue. Au départ, il est psychologue et philosophe. Mais sa première marotte principale, hein, qui va donner lieu à son sujet de thèse, hein, qui sera dirigé par Canguilhem, qui est médecin, c'est l'histoire et la philosophie des sciences. Hein. Son premier grand livre, L'histoire de la folie, c'est l'histoire et la philosophie des sciences. Mais hein. Tout à l'heure, quand je disais c'est des autofictions Foucault, j'insiste, moi, sur la dimension biographique de cette œuvre, hein, pour une raison toute simple. Des homosexuels, il y en a toujours eu dans la littérature. Hein. Mais leur objet de travail n'était pas l'homosexualité. Chez Foucault, c'est l'homosexualité. Au sens où le gendre parle d'homosexualisme. Hein. Mmh. C'est-à-dire qu'il va renverser l'appareil, l'axe de la raison occidentale, il va renverser l'homme et la femme, il va renverser le jour et la nuit, il va renverser l'humain et l'inhumain. Et quand il renverse l'homme et la femme, ensuite, il en fait une théorie, et entre autres une théorie des minorités. Raison pour laquelle la question sexuelle, alors je sais que ça heurte un petit peu les gens qui sont attachés au texte en soi, au texte seul. Hein. Entre autres, l'occurrence, les déconstructeurs, puisqu'eux étaient attachés au texte seul. Hein. Et sur la question, alors je reviens à la question que vous posiez, pourquoi il s'abritait derrière le fait que ces livres étaient des fictions. Parce qu'il a été très attaqué sur... il n'était pas du tout irréprochable en tant qu'historien. Marcel Gaucher l'a démonté. Marcel Gaucher a démoli Surveiller et punir et l'histoire de la folie. Et démoli avec intelligence. La thèse de l'histoire de la folie, c'est la thèse... il reprend à Sartre l'argument de Sartre. Sartre dit que c'est l'antisémite qui crée le juif, sans s'interroger sur qui crée l'antisémite. Oui, mais peu importe.
Pour peut-être revenir pour les auditeurs de Radio Courtoisie, il sort en 61, c'est l'histoire de la folie à l'âge classique. Et pour lui, le fou faisait partie de la société et il est exclu au XVIIe siècle.
Il est exclu
donc
par
le... il part sur une base historique.
Voilà, sauf que les historiens l'ont évidemment remis en cause. Surtout d'abord chez les anglo-saxons et puis les Français ont fini par se rendre à l'évidence. Il y a une énorme affabulation historique de la part de Foucault. Il est dans une vision très romantique du Moyen-Âge. En droit au Moyen-Âge, entre le fou et le non-fou, il y a une distance absolue. Et il suffit de vivre aujourd'hui en province pour savoir comment seront traités les parasites. Vous savez comment étaient traités au Moyen-Âge les paresseux. Les gens les battaient parce qu'ils n'appartiennent pas au groupe social. Ce sont des poids morts dans le groupe social. Et il a une vision mythifiée de la folie, Foucault. Alors on peut penser que la chose intéressante dans sa description de la folie, c'est qu'elle s'assortit d'une critique des Lumières, mais pas du tout. Pas du tout. Sa thèse mineure porte sur Kant et le texte de Kant, Qu'est-ce que les Lumières hein. Et en réalité, il pense que les Lumières n'ont pas été assez loin en définitive. Il pense que les Lumières ont occulté le dionysiaque. En fait, Foucault n'est pas moderne, parce que les modernes occultent en effet le dionysiaque. Les modernes, en effet, mettent dans l'institution psychiatrique le fou. Mais les postmodernes, non. Les postmodernes l'intègrent. Lui, c'est le penseur de la postmodernité, comme la French Theory que Fabrice évoquait. Et donc, c'est en cela qu'il est notre contemporain.
Alors, on reviendra bien sûr sur ses thèses, mais on va peut-être faire un tour en dehors de sa vie universitaire. Il fait partie à l'époque, à partir de 68, même avant, il fait partie de tous les combats avec Sartre, avec tous les universitaires de l'époque. Il défend les maoïstes, sans être maoïste par lui-même. Il va défendre aussi la deuxième gauche, les minorités sexuelles, les prisonniers, les boat people. Enfin, toute sa vie, c'est quelqu'un qui va en fait défendre toutes les causes les plus minoritaires possibles. Et vous dites dans votre livre ce qui lui permet d'être par les gens de la CFDT comme les gens du MEDEF. Quoi.
Oui, en gros, c'est ça. Ouais.
C'est un intellectuel assez
Il fait feu de tout bois. C'était le penseur et l'auteur, enfin l'historien d'archéologie. On peut faire une archéologie de Foucault, une généalogie du généalogiste. En réalité, il ne fait pas tant que ça feu de tout bois, puisque tous les combats que vous évoquez ont une définition aujourd'hui. C'est Michel Clouse-Clark qui nous la donne. En réalité, se dessine la figure du libéral libertaire. Ou comment passer du gauchisme chic, ou comment passer de la French Theory aux Chicago Boys, de l'un à l'autre. La deuxième gauche a été... la deuxième gauche, aujourd'hui, en fait, elle a préparé quoi ? Elle a préparé la gauche de Macron, la gauche de Strauss-Kahn. Un des grands maîtres de l'école de Chicago, Gary Baker, la personne qui l'a introduite en France, c'est une thèse, je crois, remarquable. C'est la thèse d'État de Dominique Strauss-Kahn. Dans les années 70. Donc on voit la collusion, et Foucault la prépare, l'annonce, la cristallise. Donc en réalité, quand il fait les boat people, il y a un paradoxe, si, les boat people, puisqu'il épouse la cause des droits de l'homme. Il est fasciné par Glucksmann. Il est fasciné par le premier livre de Glucksmann qui s'appelle La cuisinière et le mangeur d'hommes. Il en a fait l'éloge. Il reconnaît en Glucksmann, en BHL et dans les autres, non seulement des disciples promotionnellement surdoués, mais également il capte l'air du temps. Donc c'est à la fois une boussole et une pirouette, Foucault. Il fait du patinage, c'est une danseuse de patinage artistique. Et il fait ça de manière merveilleuse. En termes de style, s'il exerce aujourd'hui autant de pouvoir, s'il est toujours plus lu, moi je dis qu'il est plus grand mort que vivant. C'est qu'il y a quelques années, grâce à Google, on peut savoir quels sont les chercheurs les plus cités dans le monde entier. On sait que c'est lui aujourd'hui, toutes langues confondues. Mais ça, c'était il y a quelques années. Aujourd'hui, il fait exploser les compteurs. C'est sidérant les avalanches de textes que peuvent produire les universitaires du monde entier sur Foucault. Vous ne pouvez pas être universitaire aujourd'hui si vous critiquez Foucault. On peut le faire à la marge du système, on peut le faire comme journaliste, on peut le faire sur Radio Courtoisie, dans Éléments, mais au cœur du système, c'est absolument impossible. C'est un penseur central. C'est donc, en effet, effet, l'hérésie est devenue aujourd'hui l'idéologie de l'État.
Il a un avantage, c'est que c'est même s'il a été proche de Sartre, contrairement à Sartre, il n'est pas politique. Il contourne la politique, lui. Il passe plutôt sur le sociétal et la société. Il croit pas aux idéologies politiques. Il va pas devenir le vieux dinosaure qui est devenu Sartre.
Mais comme le disait Fabrice, il a contribué plus que tous les autres, mais la French Theory en général et lui en particulier ont contribué à liquider les grands récits. Et du reste, la thèse de Jean-François Lyotard sur la postmodernité, donc l'âge qui est le nôtre, c'est la fin des grands récits, des grands modèles théoriques, des grands monopoles théoriques qui horrifiaient Foucault. Foucault a une relation, moi je le compare, c'est l'anti-Rousseau. Il a proposé à la société un contrat asocial, hein, et non plus un contrat social. Hein. Et il s'adresse à une société qui est sortie du politique. Mais là aussi, il fixe l'agenda de ce que va devenir la gauche culturelle. Hein. Comment passer du social au sociétal? Comment passer du prolétariat au lumpenprolétariat? Parce que la vie des hommes et femmes, ça n'est jamais que du lumpenprolétariat. Et c'est ce à quoi... Autre aspect qui est considérable de Foucault, je ne l'évoque pas dans le livre, hein, mais le syndicat de la magistrature, la parole officielle du syndicat de la magistrature, c'est Foucault. La conception pénale du syndicat de la magistrature sort de Foucault. Donc c'est dire l'importance de...
Ouais, tout son travail qu'il va faire à partir des penseurs américains, hein, parce que là c'est aux États-Unis qu'il va voir sur le pénitencier, sur les peines, etc. Il va travailler énormément là-dessus.
Alors ça c'est les collusions, c'est les ruses de la raison, c'est que l'histoire se fait dans le dos des acteurs. C'est Foucault, donc le libertaire va rencontrer en effet la théorie néolibérale, hein, et en particulier la théorie du capital humain de Gary Becker, qui a été introduite en France par, je le rappelle, par Dominique Strauss-Kahn. Donc on voit déjà les rapprochements, les ambiguïtés. Et il retrouve dans la théorie du capital humain, et en particulier dans le chapitre consacré au crime, donc la théorie néolibérale du crime, qui ne marche absolument pas. La preuve en est, c'est que dès 82-83, le nombre de prisonniers explose aux États-Unis. Donc c'est dire à quel point cette théorie est fantaisiste. Pour autant, Foucault la récupère, et en réalité, il retrouve dans cette théorie ce qu'il pratiquait à l'extrême gauche dans les années 70. À l'époque, il était à la tête du groupe d'information sur les prisons. On oublie ce que c'était, mais c'était une commission d'enquête, hein, qui voulait donner la parole aux détenus. Donc l'important, c'est de donner la parole aux détenus. Et là encore, le renversement du normal et du pathologique. Hein. Le délinquant est créé par les deux figures. C'est le juge et le policier qui créent le délinquant. Donc Foucault lui disait cette chose énorme. En fait, ça ne l'intéressait pas de savoir s'il y avait des toilettes ou des téléviseurs dans les cellules. Hein. Ce qu'ils veulent, c'est remettre en cause la définition de l'innocence et de la culpabilité. Et il dit la phrase suivante, il veut renverser les normes du bien et du mal. Il le dit textuellement. Et ce qu'il retrouve dans la théorie du capital humain, qui est une théorie qui est très intéressante, hein, parce que c'est la matrice de la pensée du MEDEF, hein, sur la société assurantielle, hein, qui a été conceptualisée en France par François Ewald, ancien assistant de Foucault, et par Denis Kessler, homme remarquable, patron d'un des plus gros réassureurs mondiaux, mais également du PUF, hein, donc un homme vraiment remarquable. Hein. Et ils vont s'inspirer des travaux de Foucault et de Gary Becker pour fonder ce qu'ils appellent la société assurantielle, hein, qui est une société du risque, hein, d'un risque qui est une société de gestion du risque. Hein. En réalité, ils ne gèrent pas le risque, ils le mutualisent, hein, c'est-à-dire qu'une fois de plus, hein, ils s'accaparent les bénéfices, hein, et mutualisent les pertes, en l'occurrence donc le risque. Hein. Et ça, ils s'en inspirent, ils l'empruntent directement à Foucault. Donc c'est le ou comment, donc je au risque de me répéter, mais c'est ça se passe à l'état quasi chimiquement pur chez Foucault, parce que c'est le seul à assumer, la plupart des néolibéraux sont des néolibéraux honteux, il est le seul à assumer la définition la plus complète du néolibéralisme. L'économie ne l'intéresse pas, mais dans le néolibéralisme, ce qui l'intéresse, c'est que l'homme, la conception de l'homme, c'est être entrepreneur de soi-même, hein. Le criminel est entrepreneur de lui-même, hein. C'est ça qui l'intéresse dans le néolibéralisme, hein. Il l'assume, il en parle, c'est marrant, enfin c'est amusant. Il n'a pas de mots trop durs contre les communistes, entre autres dans la leçon la plus importante du Collège de France, celle de 78-79, hein, qui a donné lieu à une publication il y a une quinzaine d'années, c'est Naissance du biopouvoir, de la biopolitique, pardon, et qui est une analyse donc, du phénomène néolibéral. Donc on se rend compte qu'il ne s'intéresse absolument pas à l'économie, ça ne l'intéresse pas à la question. L'économie ne l'intéresse pas, la question sociale ne l'intéresse pas. Mais ce qui l'intéresse dans le néolibéralisme, il le lit au fond comme Marx, lisez le travail de la bourgeoisie. L'outil néolibéral, c'est quoi ? C'est une machine à déconstruire, hein, à déconstruire les normes, à déconstruire les peuples. Et ça offre, en tant que liberté d'entreprendre, la seule liberté qui l'intéressait, c'est celle d'expérimenter.
Oui, c'est l'expérimentation.
De nouveaux modes de vie. Et chaque livre, comme vous le disiez, chaque livre est une entreprise expérimentale. Mais si ça ne tenait qu'au livre, ce serait rien. C'est que derrière se profile, on en parlera sûrement, la théorie du genre, qui est qu'une étape dans le champ de l'expérience.
Pascal et Cyric.
Alors, il y a un passage très intéressant dans votre pamphlet, Putain de Saint-Foucault, archéologie d'un fétiche, c'est le rapport à l'Amérique. Pourquoi dire que les Foucauldiens passent sous silence
il le passe sous silence pour deux raisons importantes. La première, donc, c'est la raison biographique. En Californie, il a découvert ce qu'on appelait à l'époque les saunas. Qui sont des backrooms, il n'y a pas de terme français, où se pratiquaient un petit peu avant que n'apparaisse le sida, mais également pendant la période du sida, des relations sadomasochistes dans des barres cuir. Hein. Donc c'est déterminant parce que quand on met en vis-à-vis le début de Surveiller et punir, le début de Surveiller et punir qui est vraiment son chef-d'œuvre sur le plan littéraire. C'est un livre somptueux sur le plan littéraire. Hein. Il s'ouvre par le supplice de Damien. Le supplice de Damien, c'est le supplice d'un régicide qui est condamné à mort pour tentative de meurtre sur la personne de Louis XV. Hein. Et quand on lit le supplice de Damien, on se rend compte que c'est une performance sexuelle sadomasochiste. Hein. C'est pour ça que, malgré tout, la biographie éclaire la bibliographie. Donc ça, quand James Miller, c'est le seul universitaire, en fait, qui a fait une biographie... au fond un fort de Foucault sans masque, quoi. Tout le monde lui est tombé dessus, en particulier en France, et Ribon.
Didier Ribon,
qui est son biographe en quelque sorte autorisé,
officiel
pour ainsi dire, hein. Donc ça, on l'évoquait assez peu jusqu'à ce que James Miller l'en parle, hein. Et l'autre, c'est qu'aux États-Unis il découvre le phénomène néolibéral, hein. Alors certes, il le découvre pas en lisant directement Milton Friedman et Gary Becker, hein. Mais c'est aux États-Unis qu'ils découvrent ce modèle de société.
Vous dites qu'il n'a pas lu les grands penseurs néolibéraux.
C'est Serge Audier qui a fait un livre remarquable sur les sources de Foucault et montre qu'en réalité, contrairement à ce qu'on croit, on est convaincu qu'on commence à étudier et à critiquer le néolibéralisme dans les années 90. Hein. En fait, dès les années 75, DSK, là, je crois que la thèse de DSK est en 76, hein. Mais il y a plein de livres de vulgarisation d'ores et déjà dans les années 75-80 sur le phénomène néolibéral. Foucault dit que c'est une tarte à la crème et je pense qu'il a lu un petit peu Hayek, hein, et les pères de l'ortholibéralisme allemand, mais en fait ça ne l'intéresse pas parce que malgré tout il y a un cadre légal chez les Allemands, quoi. L'État donne l'impulsion, donc ça ne l'intéresse pas. Mais pour Gary Becker, il l'a peut-être lu, mais c'est surtout des auteurs de seconde main. Mais là, Foucault sent le vent tourner. On nous dit toujours c'est Thatcher, mais non, c'est Raymond Barre, hein, le premier. On écarte Pinochet parce que Pinochet c'était un laboratoire pour le Chicago Boys, hein. Mais le premier à introduire dans les cercles de pouvoir le néolibéralisme, c'est Raymond Barre. Hein. Et Foucault en est le prolongement.
Foucault, ce qui est marrant sur les États-Unis, c'est qu'il y a une sorte de naïveté chez lui. En fait, c'est parce qu'il découvre, les villes de la côte ouest où il y a des communautés gays, où effectivement il y a ces communautés qui se forment autour de sexualités complètement différentes. Mais en fait, son grand génie, c'est que grâce à ces expériences-là, il en fait une théorie.
Il va en faire une théorie. Ça, sa sortie. Alors, est-ce que c'est cette espèce de promesse de paradis que lui laisse entrevoir San Francisco en particulier, qui va le conduire à s'intéresser au phénomène néolibéral? Moi, je pense que c'est les États-Unis en général. J'en parle dans le livre. C'est vraiment le pays de la frontière. Hein. Et quand on dit le pays de la frontière, en fait, c'est l'expression est pleine d'ambiguïté. Pays de la frontière, c'est le pays où on repousse toujours plus loin à la frontière. Hein. Et Foucault se retrouve parfaitement dans le biotope, dans ce biotope-là.
Tout à fait.
Fabrice Moracchi.
Oui, justement, c'est ça qui est très intéressant parce que je crois qu'il faut bien préciser que, justement, ce qui intéresse Foucault au fond tout au long de sa vie, tout au long de son travail, par-delà justement ses revirements tactiques, égotiques, etc., c'est que, au fond, ce qu'il veut véritablement, on sait que, bon, le grand concept, si on peut dire, de lui, hein, qui est le plus connu à peu près partout, c'est celui de la mort de l'homme, qui fait naturellement référence à la mort de Dieu de Nietzsche. Et en réalité, ce que Foucault veut sans cesse essayer de démontrer, c'est que précisément tout ce qui peut définir une certaine norme humaine ou une certaine tout ce qui peut s'apparenter à des règles de conduite qui effectivement vont constituer soit une réalité communautaire, soit un embryon de contrat social, en réalité reviennent à poser des constructions dont il veut démontrer l'artificialité. Hein, il veut montrer que finalement l'homme n'existe pas vraiment parce que c'est une matière malléable dont on peut faire à peu près n'importe quoi. Et au fond, chacun de ces objets d'étude, que ce soit avec la sexualité, que ce soit avec la prison, que ce soit avec effectivement tout ce qui tournera ensuite sur le genre, que ce soit avec le néolibéralisme qui l'intéresse effectivement, il se fiche de l'économie. Ce qui l'intéresse dans le néolibéralisme, c'est l'idée que précisément, au nom de l'efficacité économique, on peut détruire un certain nombre de lois ou de normes. C'est-à-dire qu'il y a, l'idée que l'humanité, l'homme, l'histoire, la raison, tout ce qui définit justement, tout ce qui oppose l'ordre humain à ce qui n'est pas humain est quelque chose qui doit être démonté comme purement artificiel. Et pour lui, c'est finalement ce qui le gêne dans la gauche traditionnelle à laquelle il va finir par s'opposer. Et c'est pour ça que le néolibéralisme, pour lui, lui offre une voie de sortie très commode, parce que ça lui permet à la fois d'attaquer ce qui reste du marxisme, du communisme ou de la gauche officielle, sans rallier, naturellement, une droite conservatrice qui est obligée plus ou moins de combiner avec le pouvoir. Foucault, lui, est obsédé justement par le pouvoir, par la filiation, François l'a dit, par le sujet, par le moi, hein, par l'homme, hein, par la raison, c'est-à-dire encore une fois tout ce qui peut donner une certaine consistance, une certaine substantialité à la continuité qui est à l'œuvre à travers les générations humaines. Donc effectivement, il faut être un enfant sans père, il faut être un amant sans altérité, et il faut démonter en fait le processus même de l'hominisation. C'est ça finalement qui est la grande obsession de Foucault, et c'est ça que ses disciples, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, vont essayer de reprendre. Et effectivement, c'est là où le livre de François est très intéressant, c'est qu'il montre bien qu'il y a du domaine le plus intellectuel jusqu'à ses aspects très politiques et jusqu'à l'économie néolibérale, il y a véritablement une ligne de convergence et une cohérence qui relie l'ensemble de ces personnalités à travers une époque. Et la ligne de convergence, c'est effectivement d'où l'usage qu'ils vont faire des structure aussi, hein, parce que ça mène à ça, c'est l'idée au fond que les lois qu'on peut repérer dans la nature en réalité ne sont pas des lois et qu'elles démontrent au fond une totale indétermination de l'humain et de l'avenir. L'homme est n'importe quoi et peut devenir n'importe quoi. Et c'est très grisant parce que ça persuade au fond les lecteurs de Foucault, d'une part notamment avec le sortilège que porte son style qui effectivement est très brillant, mais ça donne une espèce d'euphorie, une sorte d'LSD justement de drogue si on peut dire, délivrée chimiquement pure dans son style et dans sa pensée, parce que ça leur donne l'illusion que finalement il n'y a rien de sûr, il n'y a rien, tout est livré à une pure indétermination, et que donc par conséquent, on peut être non seulement l'entrepreneur de soi-même, mais on peut tenter toutes les expériences les plus déraisonnables, les plus délirantes, et on enrichit en quelque sorte la détermination du devenir.
C'est Pascal Essérick.
C'est ce que Geoffroy de la Ganacherie appelle les individus infracteurs.
Oui, c'est voilà. Ça. Oui, c'est
d'accord.
On retombe sur la question de l'hérésie, de l'institutionnalisation de l'hérésie. En fait, il faut prendre au sens littéral le mot d'avant-garde. L'avant-garde de Foucault, les autres, est devenu le cœur de la société, la vocation de ce monde-là. Les individus infracteurs, aujourd'hui, sont rentrés au Panthéon, quoi. La question qui se pose, est-ce qu'ils sont rentrés par accident ou est-ce qu'ils sont rentrés par nécessité? Ils y sont rentrés, évidemment, par nécessité. Puis, comme le disait Fabrice, je pense que le plus important, c'est quand même le capital. Hein. Donc le capital avait besoin de briser les digues de ce que Weber appelait l'autorité de l'éternel hier. Hein. Et c'est les fils, en effet, les fils sans père, les fils sans filiation, ce qu'est Foucault, donc, hein, puisque le déni du nom du père, et Foucault avec le déni du nom du père, on est au cœur de cette problématique-là. C'est la fonction que vont jouer les fils, en fait, faire passer le monde paléo-bourgeois au monde néo-bourgeois. bourgeois, le monde de la théorie de Max Weber, donc sur l'éthique protestante, une éthique assez ascétique, hein, vers le monde de ce que Benjamin Barber a appelé l'éthos infantiliste du capitalisme, ou comment le capitalisme nous infantilise. Hein. Alors certes, on ne va pas reprocher à Foucault ni aux avant-gardes d'avoir tenu ce rôle. Hein. Simplement, eux ont préparé le terrain au sens militaire du terme, hein, et ensuite la contre-culture pop, ensuite les Beatles, ensuite John Lennon, ont porté au grand public ce message qui était écrit par Foucault et les autres. Et Fabrice évoquait la question de la mort de l'homme. Alors bon, la mort de l'homme, c'est dans l'air du temps. Foucault n'en est qu'une des voix. Elle est portée par le structuralisme et par le maître du structuralisme. On peut attaquer le structuralisme, me semble-t-il, mais il est difficile d'attaquer Claude Lévi-Strauss. Hein. Et Lévi-Strauss était, mais lui, en fait, son l'anti-humanisme de Lévi-Strauss, donc qui a annoncé la mort de l'homme, mais elle est programmée, la mort de l'homme, en termes géologique. Hein. La durée de vie d'une espèce de mammifère supérieur, c'est 1 million d'années. Donc elle est programmée, mais simplement, on a le temps de voir venir. Hein.
On espère, on sera toujours à la radio. Hein.
Mais Lévi-Strauss, c'est un mélange de l'ecclésiaste. Ouais. C'est un mélange de l'ecclésiaste et de Montaigne, en fait. La mort de l'homme chez Lévi-Strauss, elle est connue.
Je vais juste là-dessus, parce que en fait c'est dans les mots et les choses, hein, c'est en 65 ouais. qu'il a cette théorie là et effectivement il va servir des travaux de Lévi-Strauss, de Dumézil, mais en fait il est comme d'habitude, avec l'histoire, il s'en sert pour faire sa propre théorie. Ce livre a été très critiqué par les gens de gauche, parce qu'ils ont l'impression, on considère que c'est un livre de droite, mais c'est pas vraiment ça, quoi.
Non, il est ailleurs que dans la lecture droite-gauche. C'est vraiment un mutant. Hein. Donc il annonce le monde de demain. Il fait voler en éclat les catégories politiques. Lui, la politique, on l'a dit tout à l'heure, ne l'intéresse pas. Son œuvre a une puissance virale. Hein. Il reste plus grand chose, hein, des mots et des choses. Il reste le passage célébrissime, donc la conclusion sur le visage de l'homme qui s'efface comme le sable sur une plage, hein, et le début qui est très contestable, qui est un morceau de bravoure littéraire, qui est une description des Bénines, des filles, des demoiselles d'honneur, le célèbre tableau de Velázquez, hein, où Foucault délire à plein gaz, mais très brillamment, pour nous expliquer que l'homme n'existait pas. L'homme est né avec Emmanuel Kant. En gros, l'homme est né à la croisée du 18e et 19e siècle, et il meurt avec les mots et les choses. En fait, la durée de vie de l'homme, c'est 150 ans. C'est un coup de force publicitaire. Hein, simplement, ce qui est intéressant chez Foucault, en dépit des stratégies éditoriales, c'est le continuum, hein, c'est le cœur nucléaire. Et le cœur nucléaire, en effet, c'est un immense fantasme. Hein, et il se trouve que ce fantasme entre en résonance avec l'époque. Hein, c'est un fantasme de disparition du sujet. Et le procès du sujet est engagé. Il est engagé par toute la philosophie, par Heidegger. Mais Heidegger ne remet jamais en cause la dignité du sujet, la dignité de l'homme. Hein. Il attaque ce qu'il appelle la métaphysique du sujet. Et il attaque dans la métaphysique du sujet le sujet cartésien, maître et possesseur de la nature. Mais il n'attaque pas l'homme, hein. Il salit pas l'homme. Hein. Foucault salit l'homme. Hein. Parce que l'homme l'encombre, hein, parce qu'il traîne un péché. Je ne sais pas quel péché il traîne. La haine du père, la haine de Poitiers, la haine des origines, de toute évidence, ouais, la haine des origines. Hein. Ouais. Mais ce qui est fascinant chez le généalogiste, c'est que c'est porté par une horreur des fondations et des commencements. Et c'est en cela qu'il est américain, c'est en cela qu'il est néolibéral, c'est en cela qu'il est postmoderne. C'est qu'il y a une quête de... Il ne sait pas quoi faire de son propre corps, mais il n'est pas le seul à passer... Notre époque ne sait pas quoi faire de son propre corps. Il se trouve qu'aujourd'hui, les biotechnologies, il se trouve qu'aujourd'hui, la science nous permet justement de dépasser ce corps. Hein. Et ça aussi, ça fait le jeu de Foucault. Parce que les vrais héritiers de Foucault, par-delà la French Theory, c'est tous les courants transhumanistes. Hein. Post-humanistes, où il y a un délire, il y a une tentative de ce que j'appelle l'exhuménisation, c'est de sortir du schéma anthropologique classique, traditionnel, qui est le nôtre. Parce qu'être homme ne leur suffit pas. Foucault, manifestement, être ce qu'il est, donc être de sexe masculin, né à Poitiers dans une famille bourgeoise, ne le satisfait pas. Et ses lecteurs aussi.
Il y a une haine de l'occidental. Hein,
oui, mais c'est là. Mais là encore, elle est récurrente. Mais comme ça n'est qu'un symptôme. Hein, le livre qu'il faudrait maintenant écrire, ou sur d'autres, c'est comment se fait-il, hein, que de quel nihilisme cette œuvre est le nom, que s'est-il produit en Europe, hein, pour que nous nous identifions à cette sorte de texte? Parce qu'il n'est pas seul. Derrière Foucault, il y a tous les lecteurs, tous les les auditeurs de Cogev. Hein. Le magistère secret de ce monde-là est peu connu du grand public, mais c'est Blanchot. Blanchot a exercé une terreur blanche sur les lettres, par son intelligence. Hein, je ne le supporte pas, Blanchot. Il vient de l'extrême droite, hein, et il traîne ce péché de l'extrême droite toute sa vie. Donc il a produit sans arrêt des signaux indiquant qu'il ne venait pas de ce monde-là. Mais Bataille, mais Sade, tous les maîtres de cette French Theory, qui est un pot pourri, qui recoupe beaucoup de choses, sont portés par une pulsion de mort, par je ne sais pas comment l'appeler, hein, pour tout dire. Hein. Et Weber dit de l'Europe que c'est un procès en désenchantement. C'est un procès en désenchantement du religieux. C'est l'exception européenne, en fait. Hein, ce qui fonde le développement scientifique, artistique, etc. Mais eux, c'est un procès en désenchantement de l'homme. Hein. Donc est-ce que c'est la continuité du désenchantement? Est-ce qu'en effet la mort de l'homme est le prolongement de la mort de Dieu? Moi, c'est des sujets sur lesquels je compte travailler.
Il nous reste un quart d'heure, alors on va quand même peut-être arriver à des choses peut-être moins philosophiques, mais plus concrètes. C'est qu'on a l'impression que ces textes pourraient être complètement oubliés, comme vous dites, c'est l'un des philosophes les plus connus, les plus reconnus, les plus influents. Et forcément, ça va amener à cette fameuse tyrannie des minorités, c'est-à-dire que c'est lui qui met ça en place dans ses livres, et aujourd'hui la société qu'on nous propose, c'est un peu ça.
C'est pas qu'on nous propose, c'est la société qui est désormais...
Concrètement, dans nos politiques, dans les domaines de l'histoire, des sciences, de l'école, de l'éducation, elles sont directement dues aux théories que Foucault avait mises en place dans les années 60-70.
Son rôle est déterminant, il n'est pas le seul, parce que le grand théoricien des minorités, c'est Serge Moscovici, le père du commissaire et ministre, hein, qui a fait un bouquin sur les minorités actives.
Il ne faut pas confondre. Celui qui dort
Mais toute la French Theory, c'est Foucault principalement, en effet, c'est le statut du minoritaire. Hein, et là encore, c'est la question du gauchisme. Hein. C'est que le peuple ne les intéresse pas. Le peuple est mort sur les barricades en 68. Le peuple, il est gaulo-communiste, hein, en fait. Hein. Il est culturellement conservateur. Le peuple ne les intéresse absolument pas. Donc ils vont le remplacer par les minorités, entre autres, hein, qui vont être la nouvelle figure christique. Mais Foucault, oui, sur la minorité, il est la stratégie du minoritaire, c'est de faire croire qu'il est toujours encore et toujours dominé, quoi. Le minoritaire aujourd'hui a le pouvoir. La preuve en est, c'est que le majoritaire, il a un nom. Il est blanc, il est mâle et il est européen. Or, cet homme mâle, blanc, européen fait l'objet d'une triple castration textuelle. On lisait des journalistes, pas chimique. On n'en est pas encore là, mais parce qu'aujourd'hui on n'a plus le droit. Juridique de toute évidence, puisque procès en homophobie, procès en racisme. Hein. Le procès en machisme. Hein. C'est-à-dire que de toutes parts, les féministes, hein, qui ne sont pas les femmes, qui sont la minorité féministe, hein, procès en machisme, procès en homophobie, SOS homophobie, est désormais convié dans les écoles. Hein. Toute la French Theory repose entre autres sur le procès de ce qu'ils appelaient le procès de l'hétérocentrisme. Hein. Vous apprenez, peut-être que les auditeurs vont apprendre que nos sociétés sont hétérocentrées, avec des hétéroflics. Hein. C'était les termes dans les années quand les folles rouges des années 70. Hein. Alors Foucault va théoriser, il y a une haine du collectif, hein, parce que le collectif est porteur de la loi, le collectif est porteur de la raison, et il va mettre en avant ce qu'il appelle le référent minoritaire, hein, qui aujourd'hui tient les leviers, parce qu'on se focalise à raison sur les banquiers, sur les féodalités financières, hein, qui ont un pouvoir démesuré, c'est indiscutable. Hein. Mais on néglige les minorités féministes, je parle que du cas américain, minorité féministe, minorité homosexuelle, minorité afro-américaine, hein, qui ont le seul vrai pouvoir. Pour parler comme Carl Schmitt, hein, est souverain la personne, est souverain la catégorie politique qui maîtrise le champ symbolique de l'interdit. Du licite et de l'illicite. Hein. La personne qui symboliquement domine le licite et l'illicite a le pouvoir, de fait a le pouvoir. Hein. Donc vous constaterez comme moi que les majorités, l'homme blanc européen a perdu ce pouvoir. Parce que le champ symbolique désormais est un champ de mine pour lui. J'aime énormément le livre de Christopher Lasch, parce que Lasch a montré à la perfection, le premier me semble-t-il en Occident, que dans les années 70, c'était produit l'inverse de ce qui s'était produit il y a 50 ans plus tôt. 50 ans plus tôt, c'était la révolte des masses décrite par Ortega y Gasset. Et là, je dis non. Désormais, ce sont les élites qui se révoltent contre des peuples qui sont culturellement conservateurs. Hein. Et Foucault, dans ce procès des peuples, hein, va jouer un rôle considérable, parce qu'il va donner de la légitimité. Foucault va contribuer à délégitimer le fait majoritaire. Hein, ou comment les pratiques de quelques-uns vont pouvoir petit à petit tenir en joue les pratiques de presque tous. Hein. Or, de quoi une société est faite ? Elle est faite d'un homme et d'une femme. Hein. Et ça, Foucault va contribuer à l'abolir.
Fabrice Marocchini, là-dessus.
Oui, tout à fait. C'est toute la pensée de Foucault, et au-delà tout ce que va générer la French Theory, c'est au fond aboutir à une retranscription complète du droit pour introduire le fait minoritaire dans les législations, on va dire, civiles. Et effectivement, c'est une révolution considérable, parce que là encore, je crois que un des problèmes auxquels ils se sont confrontés, c'est non seulement, effectivement, 68, c'est-à-dire la constatation que la majorité du peuple, et notamment des classes ouvrières et populaires, ne les suivait pas, la fameuse rencontre entre les étudiants gauchistes et les ouvriers de Renault, hein, aboutit sur un échec. Mais plus largement, il y a eu l'expérience du stalinisme, hein, en Union soviétique, qui a beaucoup compté pour cette génération. Alors bien sûr, chez Althusser, hein, qui avait été un stalinien fervent dans sa jeunesse, Foucault ne l'était pas. Mais pour eux, c'est très important, parce que finalement, ils se rendent compte que la première grande société qui se voulait justement une société intégralement révolutionnaire, en fait, à travers la figure de Staline et l'ordre que met en place Staline, réincorpore en fait toute une série de représentations collectives qui sont des sens profondément conservatrices, hein, sur la patrie, sur la famille, sur la femme un discrédit très fort jeté justement sur toutes les formes de licence sexuelle, dont l'homosexualité. J'en parlais tout à l'heure à propos du voyage de Gide en URSS, et tout cela fait que effectivement il commence à comprendre que la logique, aussi bien la logique révolutionnaire que la logique même républicaine classique, finalement avorte à leurs yeux, parce que le fait majoritaire ramène toujours constamment une dimension conservatrice qui est en fait inhérente aux sociétés et aux rapports qui relient un pouvoir à une société. Et l'intelligence de cette génération-là, enfin l'intelligence maléfique bien sûr, hein, mais l'intelligence au sens propre, c'est-à-dire de compréhension du réel, c'est que précisément c'est cela qu'ils veulent attaquer. Ils veulent attaquer au fond la légitimité qui s'attache à toute forme de majorité et à toute forme de continuité qui est la base, on va dire, anthropologique justement d'une majorité. Et c'est pour ça que les minorités sont naturellement, c'est l'outil idéal, si j'ose dire, avec ce que j'énonçais tout à l'heure, c'est-à-dire un projet philosophique et scientifique beaucoup plus vaste, qui consiste à remettre en cause la rationalité même de l'hominisation, de ce qui a distingué progressivement l'homme de l'animalité dont il est issu. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin du fou, ils ont besoin du criminel, ils ont besoin de tout ce qui auparavant, justement, servait de contre-épreuve à l'édification de la rationalité et de l'homme. Il faut montrer qu'en quelque sorte, l'homme, au fond, est lui-même l'accident primordial. Et comme eux-mêmes, naturellement, ont été, se sont heurtés, alors sur la question sexuelle ou sur la question politique, se sont heurtés justement à un rejet plus ou moins virulent de la majorité, hein, de ce qui constituait une société, eh bien au fond, il faut retourner la charge de la preuve et montrer que c'est la majorité, c'est la communauté, c'est l'humanité en tant que telle qui est coupable, parce qu'elle a usurpé une place qui ne lui revenait pas. Le fou est la norme. Et la majorité est en réalité un accident.
François Bousquet.
Oui, c'est sur le communisme. Bon, c'est moi, je pense qu'on peut appliquer Watt. Alexander Watt disait du communisme, le communisme fonctionne. Comment le communisme socialise, hein, il socialise en désocialisant. Et il me semble que le néolibéralisme fonctionne sur le même schéma. Comment il fait société? En défaisant la société. Mmh. Comment le communisme fait société? Il fait la société en défaisant la société. Globalement, c'est ça le stalinisme.
Hein.
Alors certes, hein, non, il refait quelque chose qui s'effondre. Il fait une banqueroute. Hein, mais peu importe. Mais le noyau important, c'est que c'est la conviction que la révolution est un terme inapproprié. La construction expérimentale, ou plutôt le constructivisme, Hein. Le paradoxe, c'est que le déconstructionnisme va déboucher sur le constructivisme. Hein. Et le paradoxe, c'est que le procès du sujet, c'est-à-dire l'anti-humanisme, hein, va déboucher sur l'hyper-narcissisme contemporain. Donc on voit des collusions étranges, mais en tout cas, que le constructivisme se joue dans les marges. Hein. Les marges, c'est ce que le foyer utopique, pour reprendre un terme de Foucault, où se crée la société du futur. Hein. Foucault crée les nouveaux... On associe au nom de Foucault pour donner un exemple précis aux auditeurs. Hein. On associe le nom de Foucault à l'avènement de ce qu'on appelait les nouveaux mouvements sociaux. C'est-à-dire, en l'occurrence, les Femmes, c'est-à-dire ACT UP. Hein. Parce que ACT UP, Foucault, en tant que théoricien du fait minoritaire, hein, va encourager les luttes minoritaires, donc les nouveaux mouvements sociaux. Et la question combien de divisions n'importe plus, la question du nombre n'importe plus, parce que désormais, ce sont des commandos. Les commandos prennent le pouvoir. Hein. Le commando est minoritaire. Hein, et il prend le pouvoir. Hein, et il impose ses normes. Les normes du minoritaire, c'est la récusation d'une société divisée en normale et pathologique. Hein.
On va juste... Il y a peut-être quelques messages, Pascal et Céric.
Oui, je voulais lire ce message d'un auditeur à propos de la fac de Vincennes. Je pense que ça fera sourire un peu tous les auditeurs. L'allée qui menait à la fac de Vincennes était bordée de putes dans le plus pur style félinien, de grosses en petites culottes de dentelle noire et rouge, qui se chauffaient autour de bras zéro dans des vieux fûts de carburant. Et le parvis était occupé par les vendeurs de drogue. Je m'y suis égaré une fois, c'est inoubliable. Un auditeur de Radio de Courtoisie.
Ça a été démantelé au début des années 80.
Oui, parce que.
En fait, c'était devenu un squat. Hein,
c'était un squat avec un énorme trafic de drogue. Voilà, tout le monde allait. Il faut savoir que l'avantage qu'avait la faculté de Vincennes, il n'y avait pas besoin d'avoir le bac. N'importe qui pouvait aller dans les cours.
Ça accomplit parfaitement le vœu du pouvoir gaulliste, qui était de neutraliser les plus virulents, les fous furieux. Donc, on les a neutralisés en une dizaine d'années.
Deuxième message.
Voilà, émission très intéressante, merci et bravo. Je suis bien d'accord avec le discours sur Foucault. J'ai entendu Michel Onfray en parler de la sorte et le classer dans les nihilistes. Pour ma part, je pense que c'est un déconstructeur qui veut la mort de l'homme. Insupportable fascination des pseudo-intellectuels universitaires dont vous parliez pour ce dingue est intolérable. Bien cordialement.
Merci à lui.
Merci à elle.
Bon, on va peut-être un mot de conclusion, parce qu'il nous reste 2 ou 3 minutes.
Alors, on a peut-être. Oui.
Oui, moi je voulais.
Alors, dernière question.
Voilà, dernière question, c'est sur la postérité de Michel Foucault, et notamment la postérité à l'université. Je veux parler des gender studies, des cultural studies, des post-colonial studies, etc.
Alors c'est la postérité de la French theory, mais comme on l'a dit, Foucault est quand même l'acteur principal de la French theory, qui a occulté tous les autres noms, hein, Deleuze, Derrida, ou Baudrillard même. Hein. Les Américains y mettent Lacan et Barthes, hein, donc c'est Foucault, vous avez raison. Que reste-t-il de Foucault? Il a irrigué, mais sinon il n'irrigue plus. Désormais, c'est le penseur officiel des campus américains. On ne peut pas comprendre le politiquement correct, hein, les ravages du politiquement correct sur les campus universitaires américains, si au préalable, on n'a pas pris en compte le travail de déconstruction qu'ont pu mener Foucault et les autres. La postérité principale de Foucault, enfin principale, en tout cas dans l'actualité au jour d'aujourd'hui, c'est que c'est le coproducteur de la théorie du genre. Il a réellement, tout au long de son œuvre, et en particulier dans ses 3 derniers livres, qui sont l'histoire de la sexualité, qui est inachevé, dont les inédits vont paraître parce qu'ils sont dans les archives, hein. Foucault a fantasmé par avance le dépassement. Il fuyait la génitalité, le sexe génital, c'est-à-dire l'idée, enfin c'est pas l'idée, c'est la base biologique de la reproduction, un homme et une femme. Hein. Il savait pas quoi faire des assignations biologiques, en tout cas de la sienne. Hein. Donc tout au long de sa, il a publié un texte très intéressant dans le cadre de ses Vies infâmes, hein. C'est la vie d'Herculine Barbin, qui était une androgyne du 19e siècle, qui sous la férule médicale est devenu un garçon et qui a fini par se suicider. Et c'est une vie infâme. Alors, Foucault, dans ce cadre-là, le cadre du genre a été très important. Oui.
Voilà, je rappelle le titre de votre livre, François Busquet.
De votre excellent livre.
Putain de Saint-Foucault, archéologie d'un fétiche, c'est aux éditions Pierre-Guillaume de Roux. Et pour toutes les personnes qui ont fait la manif pour tous, ont parlé de la théorie du genre, et aujourd'hui, Aujourd'hui, on parle de la mixité sociale que le ministre de l'Éducation essaye de mettre en place, même dans les écoles catholiques, où ils essayent d'avoir un accord. Là, vous avez l'origine de tout ça, dans un petit livre formidable. Ah. Voilà, on
Et en plus, Foucault va retrouver André Glucksmann ce soir aux Enfers. Donc
voilà. On va faire une petite pause musicale, puis on va retrouver l'actualité européenne avec Philippe Christel. De retour dans le studio de Radio Courtoisie, dans les chroniques de la vieille Europe, avec notre deuxième partie, avec Philippe Christel, qu'on n'avait pas eu depuis au moins 2-3 mois, Philippe.
Eh oui, j'ai séché. J'ai séché,
c'est pas bien, mais enfin bon, les auditeurs vous pardonnent, car vous allez nous faire le tour de l'actualité européenne.
Mais d'abord, je vais vous poser une colle, puisque il faut bien que je sois un peu distrayant. Est-ce que vous connaissez, Patrick, le lien qu'il y a entre le pape Léon-Pierre le Grand, le pape Paul III, vous savez, celui qui était l'amant de sa propre fille, donc oui, il était un peu en avance sur Foucault. Martin Luther, Madame Roland, Arthur Rimbaud et Abel Gance.
Alors là, c'est surtout le Abel Gance là, derrière.
Ah oui, c'est Abel Gance qui vous trouve. Eh bien écoutez, tous ces braves gens, les trois premiers sont nés, les trois derniers sont morts un 10 novembre. Et comment le sais-je ? Ben oui, c'est ça la question. Eh bien, je le sais parce que je viens de me procurer, et j'en suis encore tout guilleret, je viens de me procurer le livre qui s'appelle « Au fil du temps », rédigé par l'inénarrable Alain de Benoît et qui nous livre environ 40 ans d'éphémérides divers, avec l'érudition qu'on lui connaît, avec un choix particulièrement original et jouissif sur un certain nombre de thèmes. Et donc, voilà, je voulais non pas faire le prétentieux, puisque j'ai immédiatement cité mes sources, mais engager tous ceux qui, comme moi, aiment collectionner les dates, et les dates avec un seul T, à se procurer donc le livre « Au fil du temps, les éphémérides d'éléments » aux éditions « Les amis d'Alain de Benoît ». On doit pouvoir trouver les références exactes du livre à l'intérieur, sur le site ou à l'intérieur... Sur le site des amis d'Alain de Benoît. Voilà, ça c'était pour, pour commencer, ou devant la revue.
Ou dans la revue Éléments.
Alors j'ai bien écouté les échanges passionnants et érudits qui ont précédé mon modeste bafouillage, et j'ai entendu qu'on s'esbaudissait du fait que le mâle blanc européen, prétendument majoritaire, était relégué aux oubliettes. Et bien je peux vous annoncer très solennellement que ça ne va pas s'arranger.
Ah bon.
Ça ne va pas s'arranger pour... parce que je vais mettre... non mais on rigole, mais en fait c'est assez déprimant. Et j'ai choisi pour faire ma rentrée du trimestre, histoire de déprimer définitivement les auditeurs, de mettre en regard trois éléments, trois informations assez peu effectivement positives. La première, c'est que on vient de se rendre compte que 2015 marque pour la première fois une chute très inquiétante de la natalité française. Alors on sait que la France avait de tous les pays d'Europe une natalité qui était à la fois stable, qui était régulièrement stable, voire en légère croissance, alors avec toutes les questions tout à fait légitime qu'on peut se poser sur les facteurs qui dopent ou pas cette natalité. Enfin, force est de constater que lorsqu'on compare à périmètre constant, si j'ose dire, avec d'autres natalités européennes, y compris des pays qui sont eux-mêmes régulièrement envahis par des populations allogènes, en tout cas, nous avions quand même une dynamique qui était bien plus positive. Donc c'est évidemment quelque chose d'inquiétant, puisque bien évidemment, la démographie et les berceaux, c'est quand même une partie des clés de l'avenir. Et donc, alors on a, je vous passe les ratiocinations de divers psychologues, sociologues et économistes qui s'interrogent sur la cause. J'en ai même trouvé un qui se demande si c'est raisonnable de parler de cette baisse alors que l'année n'est pas terminée. Alors il reste 3 mois, c'est vrai. Tout est possible, mais enfin quand même, on est sur environ 16 000 bambins de moins que l'année dernière, c'est 3% de chute. C'est quand même inquiétant. Bien évidemment, les premiers facteurs qu'on mettra en avant, ce sont depuis maintenant 2 ans de manière répétée, les attaques qui ont été portées sur la famille. Attaques, je dirais, à la fois sur le portefeuille et sur les symboles. Détricotage, évidemment, de la politique familiale française, mais également, et nous savons ici autour de cette table que les symboles sont forts, l'attaque sur cette notion de famille, attaque dont nous avons, grâce à vous, compris les prolégomènes autour de l'affaire Foucault. Donc, premier niveau d'alerte sur cette natalité française qui, je le rappelle, faisait partie des plus dynamiques de l'Union européenne, avec un taux de fécondité autour de 1,9, autour de 2. Je rappelle que le taux de fécondité nécessaire au renouvellement des générations est 2,1, et avec des chiffres totalement effarants de 1,3, 1,4 en Italie, en Espagne ou en Hongrie. Donc ça, le premier point. Le deuxième, c'est une étude américaine, cette fois-ci, qui vient de faire émerger un sujet assez surprenant et assez inquiétant, qui est que récemment, on vient de se rendre compte d'une tendance spectaculaire à l'accroissement de la mortalité de la population blanche américaine. Alors, pas n'importe quelle population blanche, c'est la population blanche la moins éduquée, celle qui est âgée de 45 à 54 ans, c'est-à-dire celle qui est censée être au quasiment au summum de sa maturité physique et professionnelle, et y compris en capacité de pouvoir, non pas juste donner naissance à une famille, mais commencer à se projeter sur le destin de ses propres enfants. Eh bien, curieusement, on se rend compte effectivement que cette tendance est absolument spectaculaire, d'autant que ce taux, le taux de mortalité des populations, venait et continuait de baisser très significativement au sein des minorités noires et hispaniques. C'est-à-dire que non seulement le taux de mortalité de la population blanche s'accroît, mais comme aux États-Unis, la capacité à faire des statistiques ethniques est possible, on se rend compte que cette tendance est strictement et gravement inverse à celle qui touche les autres communautés noires et islamiques. Ce dont on se rend compte, c'est que cette augmentation de la mortalité est directement liée à l'augmentation des suicides et des pathologies liées à la drogue et à l'alcool. Ce qui veut dire, si l'on met donc à part tout phénomène médical ou épidémiologique, que en fait, population blanche américaine la moins éduquée, donc celle qui n'arrive pas à se sortir du rêve américain, eh bien, sombre dans une espèce de désespoir, puisqu'elle ne se projette plus, parce qu'elle ne fait plus de projet, et parce qu'elle constate qu'il ne lui est donc pas permis de bénéficier des rêves, des atouts de ce rêve américain. Ce qui est intéressant, c'est qu'on constate que cette mortalité est liée à l'explosion des pensions d'invalidité, au fait que les gens sortent du ce qu'on appelle le taux de participation au marché de l'emploi. Donc, je connaissais le taux de chômage, mais il y a un taux de participation au marché de l'emploi, j'ai pas la définition exacte. Ce qui est certain, c'est que à l'évidence, effectivement, cette population-là est en majeure partie frappée par l'insécurité économique, en majeure partie frappée par l'effondrement des retraites, et cette population-là ne bénéficie pas des politiques d'aide que l'État fédéral, ou que même un certain nombre d'États tout court, peuvent dispenser pour d'autres moralités.
Ils sont pas assez pauvres, disons qu'on est surtout dans une classe moyenne.
Oui, est-ce qu'ils ne sont pas assez pauvres, ou est-ce que tout simplement on considère qu'ils sont médiatiquement moins voyants et qu'ils font partie de ceux dont on peut légitimement ne pas s'occuper puisque personne d'autre ne les défendra ? Je laisse la question ouverte. Mais ce qui veut dire que si on doit considérer, puisque ça fait partie des banalités qu'on nous sert régulièrement sur n'importe quelle innovation plus ou moins débiloïde, que ce qui se passe aux États-Unis, c'est ce que nous sommes censés récupérer 20 ans plus tard, on pourrait s'imaginer si est-ce que effectivement le destin de ce qu'on appelle la France populaire aujourd'hui, et d'ailleurs un électorat qui est aujourd'hui l'électorat cœur du Front National par exemple, est-ce que ça veut dire que ces gens-là sont condamnés effectivement à sortir à sortir des rails de la réussite de l'assistanat quand les comptes sociaux se seront effondrés. Enfin, voilà en tout cas un destin que nous ferons tout pour ne pas avoir, bien évidemment, mais qui met en regard le fait que derrière des postures de la haine de soi, derrière les politiques d'affirmative action qui ont pour but de privilégier n'importe qui sauf la population blanche, et derrière aussi l'entretien, si ce n'est l'encouragement de postures communautaires que les blancs ont nécessairement moins l'habitude de prendre, eh bien il y a du dégât, et il y a aujourd'hui une population qui part à la dérive, entre guillemets, nous voilà prévenus.
Bon, ben c'est très gai.
Et alors pour finir, alors c'est aux États-Unis. Alors pour finir, on va peut-être être sauvé, parce que, enfin c'est pas sûr, mais on va peut-être être sauvé, mais tous les chiffres ne sont pas vers le déclin. J'ai trouvé un chiffre positif, qui témoigne d'une hausse de 75%. Même de 84% si on prend l'arrêt en 2012. Alors ce chiffre-là, c'est, faut le reconnaître, oui, c'est le taux de progression de l'immigration d'Afrique subsaharienne en Europe.
Ah ouais, d'accord.
Alors bon,
je crois qu'on va rester dans le bunker pour.
Donc
pour
voilà, avoir... bon. alors c'est tout à fait fascinant parce que c'est probablement une espèce de mouvement brownien puisqu'on parle des migrants un peu dans tous les sens. Donc effectivement, on vient de publier une étude qui est tout à fait passionnante. Je ne sais pas si elle va être largement communiquée, mais moi, vous me connaissez, je me la suis procurée pour votre plus grand bonheur et pour celui de nos auditeurs. Donc effectivement, de 2000 à 2010, et donc jusqu'à 2012, si je cite mon chiffre de 94%, on a eu une explosion du nombre d'immigrés d'Afrique subsaharienne. Alors, il y a toute une étude qui cherche à comprendre ce qui crée cette immigration et comment on peut la caractériser. Alors du coup, il y a plein de chiffres que je ne résiste pas au bonheur de partager avec vous. Alors d'abord, la première chose qu'il faut que vous saviez, c'est que pour la France, sur cette période des 10 ans, on parle donc d'une immigration légale, par définition, puisque c'est celle qui est identifiée.
On est d'accord.
Donc nous avons accueilli 830 000 subsahariens sur cette période. Et alors, il faut se rassurer parce que l'origine subsaharienne pour la France, c'est vraiment marginal. C'est-à-dire que c'est fascinant. C'est-à-dire qu'on nous explique que l'Algérie et le Maroc sont de loin en tête des pays de naissance des étrangers qui viennent en France. Donc, j'oserais dire que ces 830 000 sont une sorte de détail de notre histoire récente. Ce qui est intéressant, c'est que d'où viennent ces migrants, on se rend compte que, eh bien, alors, sans surprise, vous allez voir, on n'a pas de bol encore. C'est-à-dire qu'en France, sans surprise, la majorité des migrants viennent des États francophones d'Afrique. Jusque-là, tout va bien.
C'est plutôt logique.
Et on se rend compte qu'une partie importante des immigrés d'Afrique subsaharienne sont en fait des anglophones. Mais alors, ils ont une petite différence, c'est que les immigrants anglophones sont majoritairement diplômés. Et les nôtres, ben non. Non, c'est non. Donc là encore, pas de bol, bad luck, encore raté. Et donc, on se rend compte effectivement que, du coup, ben, le taux d'emploi des Africains en Europe reste assez faible, inférieur à 50%. Donc ça, c'est pour le discours de ceux qui nous vendent, bien évidemment, l'immigration de travail. Et je passe les autres délires sur le pillage des élites. Les femmes représentent 49,5%, donc grosso modo la moitié, sauf s'il y a déjà une troisième catégorie qui a été créée statistiquement, mais venant d'Afrique subsaharienne, à mon avis, elle doit être minoritaire. Donc ça, donc deuxième élément, deuxième enseignement. Troisième enseignement, et celui-là aussi il est intéressant, on s'est dit, mais comment peut-on freiner ces mouvements ? Ce qui déjà part d'une bonne intention. Bon. Alors on s'est dit, ben oui, effectivement, il faut, et ça vous connaissez, il faut le développement économique des pays d'origine.
Oui, ça, oui.
Développer l'économie des pays d'origine, et vous verrez...
Donc depuis que je suis gamin, je crois que j'ai entendu ce développement...
Eh bien, encore à côté de la cible, Patrick, puisqu'on vient de se rendre compte non seulement que la croissance économique ne freinait pas le mouvement, mais pire, elle l'accroissait, puisqu'en fait, vous développiez cette logique d'immigration à partir du moment où vous rapprochiez les niveaux de revenus. Un petit peu comme si on rendait possible, du fait de la proximité en termes de revenus, sa capacité à se projeter dans une autre économie. Et on prend effectivement des exemples. Si vous prenez les pays qui sont les plus pauvrissimes de l'Afrique, comme le Niger ou le Burundi, eh bien, ces pays-là n'émettent pas d'immigration subsaharienne, là où, lorsque les niveaux moyens s'accroissent, à ce moment-là, on a une accélération des départs vers l'Europe. Donc, de là à dire que pour stopper l'immigration, il faut arrêter d'aider les pays africains, l'étude ne le dit pas et je ne voudrais pas être un mauvais exégète. Alors, on a aussi quelques éléments de projection. On nous explique par exemple que le Sahel est le futur réservoir des migrations africaines. Alors on prend l'exemple du Niger, j'en parlais, donc qui est un des pays les plus pauvres. Il comptait 3 millions d'habitants en 1960. Alors bon, les projections de démographes, faut toujours se méfier, mais en 2050, il devrait être autour de 63 et 76 millions d'habitants. Et le Niger, on pense qu'il va y avoir une... Le Niger, c'est un francophone, donc c'est pour nous. Donc aujourd'hui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit quand même, ce qui est très embêtant dans les pays du Sahel, c'est qu'on a une démographie, une fécondité qui est souvent supérieure à 7 enfants par femme. Alors c'est souvent supérieur, on ne sait pas jusqu'à combien, mais c'est souvent supérieur. Et alors on nous explique que ça, c'est comme ça, du fait, je cite, des traditions, pourquoi pas, mais surtout de la timidité des organisations internationales et du monde politique à tenter d'apaiser le phénomène. Donc on comprend qu'en fait, les ONG préfèrent, aux frais de la princesse, s'occuper des situations où il n'y a pas de coûts à prendre et des dollars à dépenser, plutôt que de faire le travail de régulation qu'on attendrait d'elle ou qu'elle prétendent faire. Et puis alors, il y a tout un chapitre qui est tout à fait passionnant et qui pose la question de la chance. Vous savez que l'immigration, c'est une chance.
Oui.
Alors ça dépend pour qui. Alors du coup, donc il y a l'étude est faite en deux parties. C'est chance pour les pays d'origine, d'abord. On va traiter le sujet. On va se rendre compte d'ailleurs que les transferts financiers des immigrants subsahariens en Europe, c'est 33 milliards de dollars. C'est plus que les aides publiques au développement qui sont de 25 milliards de dollars. Et donc, à l'évidence, il y a effectivement cette chance de redistribution pour les pays d'origine. On apprend d'ailleurs, soit dit en passant, que dans les pays de l'OCDE, on compte quand même 75 000 médecins africains et 137 000 infirmiers travaillant dans les hôpitaux des pays de l'OCDE, ce qui laisse là aussi rêveur sur la capacité que nous avons à organiser des flux pour... soigner les populations. Alors vous allez me dire, d'un autre côté, si vous dites à un médecin subsaharien, écoute mon vieux, il faut que tu soignes des Maliens parce que c'est plus possible, il dit bah oui, c'est pour ça que je me suis installé à Montreuil. Donc à un moment donné, quand la patientèle rejoint le médecin, il y a une limite au raisonnement.
Il faut savoir que ces médecins sont beaucoup moins payés parce qu'ils ont le droit d'exercer, mais leurs diplômes ne sont pas reconnus.
Oui, et d'ailleurs, on nous cite un chiffre de 39% de taux de surqualification des Africains dans les pays riches, qui nous démontre que vraiment, on fait pas ça bien. Et alors quand même, il y a un commentaire disant que parfois, cette arrivée de jeunes gens permet de compenser une démographie parfois atone. Donc là, on est dans un raisonnement tout à fait merkelien, si j'ose dire, et de pourvoir des emplois très peu qualifiés, ce qui reste à démontrer. Dans le même temps, cela pose des problèmes d'intégration dans un marché du travail difficile pour les moins diplômés. Ce qui est très bien, c'est qu'on nous pose le sujet de l'intégration au titre du marché du travail. On rejoint là encore cette espèce d'ultra-libéralisme rampant et totalement assumé. On a bien mis de côté, bien évidemment, parce qu'on quand même, on est une étude scientifique, les problèmes d'intégration autres sur des babilles de thèmes, sur des babioles de thèmes civilisationnels ou autres. Donc voilà, en tout cas, le résumé que je voulais faire. L'immigration africaine, ça n'a pas fini de s'arranger. Les Blancs dont on ne s'occupe pas développent un taux de mortalité plus fort que la moyenne. Et en France, alors que tout allait bien à la naissance, c'est une chute libre. Voilà, c'était mon côté Roger Jiquel. Mais je vais vous donner maintenant une bonne nouvelle. Parce que je sais que vous en avez envie. Je ne
oui, s'il reste un
pas.
Quart d'heure, et là, autrement, je pense que le... Oui, 47. L'auditeur ne va pas bien comprendre.
Je vais même vous donner deux bonnes nouvelles.
Alors,
la première,
nouvelles.
Mais je pense que vous l'avez vu, c'est que... Les résultats des élections en Europe, entre ceux qui s'annoncent et ceux qui viennent d'avoir lieu, confirment une relative montée en prise de conscience au sein des électorats du péril que représente la déferlante de migrants. Et je ne parle pas, et c'était même avant l'annonce avec tambours et trompettes de la Commission de Bruxelles, comme quoi il fallait nous attendre à 3 millions de migrants dans les années à venir. Le bon résultat, c'est évidemment le résultat que auquel on vient d'assister en Croatie, où la droite vient de remporter les législatives, boutant ainsi les sociaux-démocrates du pouvoir, avec une droite qui a particulièrement assumé un discours de dureté, de durcissement de politique d'accueil anti-migrants, d'autant que la Croatie a eu très peur puisqu'elle s'est fait traverser, si j'ose dire, par environ 300 000 migrants qui avaient dans un premier temps plutôt la bonne idée de vouloir s'installer en Autriche et en Allemagne, mais rien ne dit qu'ils ne soient pas suivis par d'autres qui s'arrêtent en cours de route. Ce qui est certain, c'est que le leader social-démocrate qui s'appelle Karamarko a fait une campagne résolument conservatrice, assumant d'ailleurs une filiation directe avec le grand leader de l'indépendance croate, hein, Franjo Tudjman, qui avait été montré du doigt pour sa défense des valeurs chrétiennes, de l'identité et d'une certaine manière d'une relecture de l'histoire croate des 40-50 dernières années qui se défendait du point de vue croate. Monsieur Karamarko est également opposé au mariage gay et il a clairement souhaité régler son compte à certaines ONG dont qu'il accusait de faire un jeu anti-national. Ce qui est, alors évidemment, les élites autoproclamées du coin s'offusquent et parlent d'une orbanisation de la Croatie. Ce qui est certain, c'est que clairement le HDZ, hein, c'est pas un insecticide, hein, c'est le nom de la coalition de droite, le HDZ a clairement demandé à ce que la Croatie rapproche ses liens avec le groupe de Visegrad. Vous savez, le groupe de Visegrad, c'était alliance informelle de différents pays de l'Est, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et la République tchèque, qui jouent un rôle dans les relations diplomatiques et souvent dans les questions liées à la sécurité, à l'OTAN, au rapport avec la Russie, mais qui cette fois-ci ont été particulièrement en pointe contre cette volonté toute bruxelloise de saupoudrer du migrant un petit peu partout en Europe. Et ce n'est pas l'élection du PiS en Pologne qui va infirmer cette tendance. Donc il y a clairement, là encore, un effet induit bénéfique de cette grande secousse que sont l'arrivée des migrants, qui permettent à un certain nombre de pays, de populations à la fois, de se réveiller et de pays de mettre en commun leurs forces, fussent-elles modestes, pour faire face à l'hydre bruxelloise. Alors le seul point sur lequel on attend avec impatience de regarder la densité du lien entre la Croatie et la Hongrie, entre Orban et Karamarko, c'est évidemment la question russe, puisque, vous le savez, la Croatie est particulièrement alignée sur l'Allemagne, pour des raisons économiques évidentes, et puis vous vous rappelez bien sûr, comme nos érudits auditeurs, que l'Allemagne avait la première reconnue de manière unilatérale l'indépendance de la Croatie au moment de l'effondrement de la grande Yougoslavie, et en cela, la Croatie et le HDZ sont clairement beaucoup plus pro-américains qu'Orban, la Russie étant vu bien évidemment comme
l'allié des Serbes,
l'allié, j'allais dire le protecteur des Serbes, qui sont évidemment les grands ennemis. À noter dans ces législatives, pour à la fois donner une démarche exotique et colorée, la réélection de Branimir Glavaš. Alors Branimir Glavaš, ça vous dira rien, ça,
rien,
c'est
tout.
Pas pire. Donc il faut savoir que c'est le patron de l'Alliance démocratique de Slavonie. Mais surtout, c'est quelqu'un qui sort de prison. Alors, c'est pas comme en France où on sort de prison parce pour abus de biens sociaux. Lui, il vient de faire 6 ans pour avoir été condamné comme criminel de guerre par l'AE. Mais donc, il a purgé sa peine. Il revient dans sa circonscription d'Osijek et il a été réélu triomphalement par les électeurs qui, semble-t-il, ont dû apprécier l'ambiance scénique de ces meetings protégés par des gardes vêtus d'un uniforme noir qui ont, semble-t-il, emporté l'adhésion des électeurs. Plus sérieusement, la vraie bonne nouvelle, c'est que il y a quelques jours, la presse bruissait de cette éventuelle réception de la candidature du Kosovo à l'UNESCO. Effectivement, toujours dans cette logique de, du fait accompli et d'entériner cette scandaleuse partition du territoire serbe, eh bien, le Kosovo, soutenu par les Allemands, les Américains et les Turcs, envisageait de déposer sa candidature et a déposé sa candidature à l'UNESCO. À l'UNESCO, on n'est pas dans les mêmes règles qu'à l'ONU, bien évidemment. À l'ONU, sans le soutien des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, impossible d'espérer quoi que ce soit. Mais à l'UNESCO, vous êtes sur un vote, il faut 2/3 de majorité, il faut une majorité des 2/3 pour être reconnu. Et bien évidemment, les Serbes du Kosovo et les Serbes tout court et leurs alliés étaient vent debout contre cette candidature, puisqu'on sait aujourd'hui que tous les monuments qui sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO au Kosovo sont des monastères médiévaux serbes orthodoxes, qui sont également inscrits sur la liste du patrimoine en péril, que Belgrade a recensé quelques 230 sites religieux orthodoxes qui ont été attaqués ou rasés par les fous furieux de Lučeka et consorts, et que même le principal monastère du XIVe siècle, qui est aujourd'hui gardé par la KFOR et par les soldats autrichiens, fait régulièrement l'objet d'attaques à la grenade et des extrémistes, par les extrémistes kosovars albanais. Et donc il y avait une logique de... Écoutez, on ne sait pas si le Kosovo est vraiment qualifié sur la protection du patrimoine culturel. Alors, le Premier ministre du Kosovo s'est bien évidemment défendu. Il a dit que, quand même, le Kosovo était un État jeune, le plus jeune d'Europe, encore des statistiques en notre défaveur, 50% de la population à moins de 28 ans. Et quand même, le Kosovo, c'était un pays qui parlait d'avenir et qui visait un Kosovo libéral, séculaire et multiethnique. Parce que tout de suite, ça fait envie. Ouais. Et il disait, c'est quand même dommage qu'on ne soit pas à l'UNESCO, parce que ça, pour nous, les Kosovars, on ne peut pas candidater à de nombreux prix et programmes internationaux. On imagine bien effectivement le prix Nobel du trafic d'organes, la médaille Fields de la traite des blanches. Enfin, c'est quand même dommage de ne pas pouvoir. Et alors donc, le vote a eu lieu. Eh bien, Victoria, depuis hier, à 3 voix, eh bien, la candidature du Kosovo a été retoquée à l'UNESCO. Dommage. Alors, à 3 voix quand même. Hein, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Alors, je vous rassure, hein, vous voulez savoir ce qu'a voté l'Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis d'Amérique, évidemment qu'ils ont voté oui. Alors vous allez me demander le vote de la France, mais il a voté oui. Bien évidemment. Ce qui est intéressant, bien évidemment, c'est la Chine, il y a eu des abstentions, mais il y a eu des votes contre. La Russie a voté contre, la Chine a voté contre. L'Espagne, fidèle à sa tradition de ne pas reconnaître les séparatistes et qui est les mains dans le cambouis jusqu'au coude avec les Catalans, a évidemment voté non. En tout cas, c'est probablement reculé pour mieux sauter parce que les dynamiques ne sont pas favorables. Mais en tout cas, voilà un coup d'arrêt dont nous ne nous plaindrons pas.
Et puis, oui, il vous reste une petite minute.
Une petite minute rapidement. Pour faire un petit peu de littérature. Écoutez, vous savez que le sujet du moment, c'est quand même les prix littéraires de la rentrée. Alors là, je ne vais pas vous parler d'un prix littéraire de la rentrée, mais peut-être d'un prix pour 2016 qui agite le cortex, le néocortex de l'ensemble du secteur éditorial français. C'est le fait qu'en 2016 tombe dans le domaine public un best-seller des années 20 qui s'appelle Mein Kampf. Et donc, faut-il le sortir ou faut-il ne pas le sortir ?
C'était la polémique de toute la semaine dernière.
Faut-il le sortir avec un appareil critique de 2000 pages ou pas ? Alors, je ne vais pas vous faire l'exégèse du débat, mais je voudrais vous raconter quelque chose qui m'a absolument fasciné. Figurez-vous que quand Mein Kampf a été publié dans les années 20, Hitler en a fait également une impression pour les Anglais, pour les Italiens, mais pas pour les Français. Puisqu'il ne voulait pas que les Français découvrent trop ce qu'ils pensaient d'eux. Mais il y a un jeune éditeur qui s'appelle Fernand Sorlot qui a décidé de braver la censure et de publier quand même le titre en violation des droits d'auteur de l'auteur Adolf Hitler. Et cet auteur a été subventionné et soutenu par la LICA, la Ligue internationale contre l'antisémitisme, qui a décidé d'acheter et de faire publier 5000 exemplaires de l'ouvrage. Adolf Hitler, pas content, saisit un juge en disant « j'ai des droits d'auteur ». Le juge lui donne raison le 18 juin 1934 et fait saisir les exemplaires, sauf ceux de la LICA, qu'elle refuse de transmettre. Et donc, c'est quand même à se demander, vous connaissez la phrase de Coluche entre Hitler et les Juifs qui a gagné, mais là, il y a une spoliation quand même, et je ne sais pas qui a commencé, mais je m'interroge.
Voilà mon cher Philippe, on se retrouve, on est pris un peu de retard, on se retrouve dans 4 semaines, je crois qu'on a bien terminé hein, quand même cette émission. Juste un truc, l'auditeur tout à l'heure, on avait cru que c'était une auditrice, c'est un auditeur et on est désolé, mais le prénom Valérie était effectivement avec un Y. Voilà, on se retrouve dans 4 semaines pour une nouvelle émission des Chroniques de la Vieille Europe. Pour le reste, restez toujours sur Radio Courtoisie.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de la nuit de la vieille Europe dirigé par Patrick Péel, assisté de Pascal Essérick et Philippe Christel, diffusé en direct mardi 10 novembre 2015 de 21h30 à 23h. Il est diffusé en différé jeudi 12 de 21h30 à 23h également, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal a été réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix front de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.